Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
À Pâques 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, naissait à Agen le mouvement Pax Christi. 70 ans plus tard, ce mouvement a le statut d'ONG consultative auprès de l'ONU, de l'UNESCO ou de l'Union européenne et est présent dans plus de 50 pays sur les 5 continents. Du 30 octobre au 3 novembre, sa branche française a décidé de revenir aux sources en organisant un pèlerinage entre Agen et Lourdes, en passant par Montauban et Toulouse, l'occasion pour nous de découvrir ou de redécouvrir ce mouvement. Alors, pour nous parler de Pax Christi avec ce titre, 70 ans à être apôtre de la paix, je reçois ce matin sœur Hélène Rendu. Vous êtes sœur franciscaine, responsable de Pax Christi Jeune à Toulouse. Bonjour.
Oui, bonjour.
Je reçois le père Michel Dagra, bien connu de nos auditeurs, mais je le reprécise, qui est prêtre du diocèse de Toulouse et théologien. Bonjour mon père.
Bonjour.
Et Jean-Baptiste Cornet, donc vous travaillez à l'Arche, à Blagnac, et vous êtes le responsable du groupe Coexister, association de dialogue interreligieux à Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Alors, peut-être au début de cette émission, l'idée c'était de découvrir ou de redécouvrir la genèse, l'origine de ce mouvement. On va tout de suite écouter une interview de Mgr Stinger, qui est donc évêque de Troyes et qui est le président de Pax Christi France et qui va présider ce pèlerinage du 30 octobre au 3 novembre, donc entre Agen et Lourdes.
Officiellement, Pax Christi est né tout de suite à la fin de la guerre, hein, de façon très officielle, mais il y avait eu... Je dirais des signes avant-coureurs. La vraie naissance de Pax Christi, c'est la fondation d'un groupe de prière pour la réconciliation franco-allemande en 1944 à Agen, dans le sud-ouest. Et ce groupe de prière a été fondé par une laïque, une professeure de littérature, je crois, du lycée d'Agen. Donc c'est intéressant de noter que déjà à cette époque-là, les laïcs avaient... des initiatives dans l'Église, hein. c'est pas seulement aujourd'hui qu'on découvre l'importance qu'ils en aient, mais déjà à l'époque ils en avaient. Et cette femme a fondé ce groupe de prière pour la réconciliation franco-allemande. Alors tout de suite au sortir de la guerre, l'Église de France, dans la personne d'un de ses évêques, Mgr Théas, l'évêque de Montauban, a reconnu cette démarche comme une démarche nécessaire pour la paix, et donc elle a pris cette démarche à son compte. À partir de là, le mouvement Pax Christi devenait vraiment un mouvement d'église. Et pour bien montrer que c'est pas simplement, je ne dis pas ça de façon dépréciative, c'est pas simplement un mouvement de militants, mais c'est le mouvement de l'église pour la paix, et bien c'est toujours un évêque qui est président à cause de ça. C'est le seul mouvement où ce soit un ecclésiastique qui soit le président.
D'accord, voilà. Alors peut-être pouvez-vous nous dire 70 ans après, du coup, peut-être quelle est son actualité encore, en quoi ce mouvement n'est pas un mouvement du passé, mais il a encore un rôle à jouer et une grande importance.
Oui, alors je disais qu'il était né donc d'un désir de réconciliation franco-allemande. C'était la déchirure majeure à l'époque. Aujourd'hui, il y a des fractures beaucoup plus nombreuses, mais pas moins importantes. Dans le monde où nous sommes, ces fractures, c'est pas seulement ces fractures d'opposition armée entre des États, il y en a d'autres, des fractures, il y a toutes les atteintes portées aux droits de l'homme, toutes les atteintes qui peuvent être portées au plein développement des pays et des peuples, les atteintes portées aussi à la nature, tout cela fait que notre monde est chargé de violences potentielles et il faut constamment être en éveil, non seulement pour essayer de les éviter, mais surtout pour essayer de les résorber, c'est-à-dire pour faire en sorte que de ces violences, on passe de nouveau plus d'harmonie.
Alors, Mgr Stinger, donc, qui nous avait fait l'amitié de nous donner cette interview avant l'émission, qu'on a entendue hier dans Présence Matin, donc nous a expliqué quelle était la genèse. La genèse, c'est donc Pâques 1945, Père Michel Dagra, un mouvement de réconciliation franco-allemande. Le cœur de Pax Christi, en fait, c'est ce précepte évangélique qui est fou, qui est l'amour des ennemis. Est-ce que vous pouvez nous aider à nous remettre dans le contexte et à comprendre, en fait, la puissance de cette intuition première et son audace?
Je crois que les plus anciens parmi nous qui se souviennent de cette période, moi j'avais 12 ans à ce moment-là, 14 ans même, c'est la perception d'un contentieux et d'un ressentiment énorme. Voilà, nous les jeunes, quand nous allions à l'école, moi il m'est arrivé de me faire fouiller le cartable par des feldgendarmes, et c'était quand même pas très agréable, hein, avec le plumier et les affaires répandues sur le trottoir parce qu'on m'avait vidé le sac. Et puis ça, c'était rien. Il y avait les voisins, les amis qui partaient en déportation, et c'était la guerre. Donc, on disait beaucoup plus facilement les Boches que les Allemands. Et il y avait là, donc, des ressentiments et des contentieux fantastiques. Et commencer en 1944, donc avant que la fin du conflit n'arrive, à prier pour la réconciliation entre Allemands et Français, c'est de nature proprement révolutionnaire.
Si vous deviez faire un comparatif aujourd'hui, ça serait quoi dans ces cas-là, l'amour des ennemis aujourd'hui ?
Ben, l'amour des ennemis, il faudrait en parler d'abord. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, amour ? Mais il faudrait pour aujourd'hui, transférer à aujourd'hui, prendre cet exemple emblématique de la situation de l'époque et la transporter aujourd'hui.
C'est-à-dire qu'on ferait quoi ? On essaierait de faire un mouvement de paix, de réconciliation avec,
oui,
avec des gens qui étaient des ex-islamistes ou autres ?
Ah, tout à fait, tout à fait. Avec un distinguo majeur qui est toujours d'actualité, très difficile à vivre, très délicat à préciser, où on ne confond pas les personnes humaines dans leur consistance profonde avec ce qu'elles disent ou ce qu'elles font. Et ça, on peut condamner, et il le faut, des actes d'une violence éperdue qui sont insoutenables. Et bien entendu, les gens qui en sont les auteurs, s'ils n'arrivent pas à se décrocher de ces événements, c'est la lutte. Hein. Mais en tout état de cause, considérer les personnes humaines derrière ce qui se fait ou ce qui se dit est un point majeur de l'Évangile.
Alors, donc, Pax Christi a 70 ans. Faut-il le rappeler, c'est aussi les 70 ans de la création de l'ONU, voilà. Donc cette instance internationale de dialogue entre les nations. On peut préciser, donc, c'est ce que disait Mgr Stinger, que donc, le Pax Christi est un mouvement, entre guillemets, un peu à part parmi l'ensemble des mouvements catholiques. C'est un mouvement international, comme je le disais en introduction, est une ONG aussi consultative auprès de l'ONU, de l'Union européenne. Qu'est-ce que Pax Christi est si particulier ? Alors, est-ce que c'est juste lié à l'histoire ? Est-ce que Pax Christi, est-ce que ce mouvement de paix, de fait, a quelque chose de particulier parmi tous les mouvements d'Église ?
Michel Dagan. Moi, je crois que c'est lié à l'histoire, parce que ce que disait Marc Stenger tout à l'heure, de Madame de Dolteck-Lodo qui s'est référée à Mgr Théas, est très important. Mgr Théas était un résistant.
Et donc c'est juste cette femme que vous citez, c'est donc la laïque, hein, qui a fait cette proposition, voilà. À l'évêque de Montauban à l'époque, qui s'appelait Mgr
Théas. Et elle a eu l'appui très vite de Mgr Saliège, que nous connaissons tous.
Donc, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, pouvez-nous redire Mgr Saliège ?
Mgr Saliège, c'est l'archevêque de Toulouse de l'époque, qui fit une lettre de protestation contre la déportation des Juifs. Et c'était un texte qui a été lu en chaire par les prêtres. Moi, je me souviens, dans ma paroisse, la Gestapo était au fond de l'église quand le curé a lu cette lettre. C'était quand même, il faut revoir le contexte. Donc c'est un peu pour cela, peut-être, que c'est un évêque qui est à la tête du mouvement. Hein. Le contexte historique initial explique bien des choses. Et depuis, alors, ce mouvement s'est déployé, il a pris une stature internationale, et comme on le rappelait tout à l'heure, il est devenu consultant d'un certain nombre d'organismes internationaux, l'UNESCO, l'ONU, la Commission des droits de l'homme à Genève, le Conseil de l'Europe. Et consultant, ça veut dire qu'on donne des conseils. Et le propre d'un conseil, c'est qu'on peut ne pas le suivre. Sinon, c'est un ordre.
Voilà. Alors, Jean-Baptiste Cornet, je me tourne vers vous, vous qui êtes pas tout à fait de la même génération que le père Michel Dagra, hein, puisque donc le père Michel Dagra a connu l'occupation allemande, même s'il était enfant. Vous, Pax Christi, honnêtement, est-ce que vous connaissiez, et quand vous découvrez, ou quand vous avez découvert, et là vous découvrez peut-être encore plus pendant cette émission, qu'est-ce que vous vous dites ? Alors, première et deuxième question, est-ce que vous connaissiez, et qu'est-ce que vous dites peut-être en le découvrant ?
Alors, non, je ne connaissais pas du tout ce mouvement. J'ai découvert ça il y a un mois au festival Open Church de la paroisse étudiante, et à vrai dire la première réaction que j'ai eue quand j'ai vu le mot Pax Christi, je me dis voilà, j'ai tout de suite vu l'âge de ce mouvement par un nom latin. Ça a réveillé en moi toutes mes études de cette langue morte, et je me suis dit waouh, ça doit être un mouvement assez vieux. Et au final, quand je découvre ça, je suis impressionné par cette capacité de après la guerre, après une occupation par les Allemands, d'être capable d'aller vers l'ennemi et d'œuvrer à la réconciliation entre les hommes, entre les pays.
Et vous vous dites aujourd'hui, de fait, si vous deviez transposer aujourd'hui à la France, est-ce que l'exemple que je prenais pour vous est parlant, ou est-ce que vous vient une autre idée, ça serait d'essayer d'avoir un dialogue de paix, justement, avec des musulmans extrémistes?
Alors ça, c'est...
La comparaison vous paraît un peu osée, peut-être, ou...
La comparaison est compliquée, parce qu'on ne vit plus sous... Il n'y a pas d'occupation islamiste en France, on a quelques groupes surveillés par nos services en France, mais il n'y a aucune occupation, et les conflits sont ailleurs, enfin dans d'autres pays.
En tout cas, ça vous parle. Et puis vous nous présenterez peut-être l'association Coexister Après, donc vous représentez aujourd'hui, qui est une association, une jeune association de dialogue interreligieux et qui, à sa manière, œuvre à la paix en France. On fait une pause et puis on essaie de voir justement Pax Christi aujourd'hui, dans le monde et en France. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente?
Chaque jour, je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur, hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. Je t'exalterai, mon Dieu, ô mon roi, je bénirai. À tous les peuples, la justice et la paix, et gloire au Père, au Fils et à l'Esprit. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous. Ses œuvres. Je t'exalterai, mon Dieu, ô mon roi, je bénirai ton nom à jamais. Accorde à tous les peuples la justice et la paix, et gloire au Père, au Fils et à l'Esprit. Que tes œuvres, Seigneur, que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne. Ils parleront de tous tes exploits. Je t'exalterai, mon Dieu, ô mon roi. Je bénirai ton nom à jamais. À tous les peuples, la justice et la paix, et gloire au Père, au Fils et à l'Esprit.
Emmanuel Pella.
Ce matin, donc, nous parlons de Pax Christi et des 70 ans donc, de ce mouvement catholique international en faveur de la paix, qui, je le rappelle, je disais en introduction de cette émission, est aujourd'hui présent dans plus de 50 pays sur les 5 continents et qui est donc, qui a le statut d'ONG consultative auprès de l'ONU, de l'UNESCO ou de l'Union européenne. Alors en début d'émission, on a essayé de voir quelle était la genèse. La genèse, c'est un désir de réconciliation franco-allemande, de dialogue entre les Français et les Allemands. Mais peut-être aujourd'hui, Pax Christi, dans le monde et en France, qu'est-ce que c'est? Alors je vous pose la question de manière un peu abrupte. Comme le disait, et je m'abrite derrière Jean-Baptiste Cornet, donc qui est présent sur ce plateau et qui représente l'association Coexister, on peut avoir l'impression que c'est un mouvement du passé et que aujourd'hui on va souffler les bougies des 70 ans, mais on n'en voit pas trop l'actualité ou on ne sait pas trop ce qui se passe. Père Michel Dagra, est-ce que vous pouvez nous dire dans le monde, Pax Christi aujourd'hui, ça veut dire quoi? C'est des gens qui se réunissent pour prier? Est-ce qu'ils agissent?
C'est la paix du Christ, évidemment c'est en latin, mais Open Church c'est en anglais, donc on peut toujours remettre les choses à jour en changeant de langage, mais le contenu ne bouge pas. Et le fait que ce soit un mouvement d'abord de prière pour la paix, la prière c'est pas un délire, hein, c'est une conversation avec quelqu'un, le Seigneur, avec qui on est en compagnonnage sur les routes de la vie, et ce n'est pas un fervorino un peu bizarre, loin de là. Et puis il y a tout un travail de sensibilisation. Et là, on a fort à faire, et ce n'est pas simple. Éveiller les gens à la question de la paix. Et de façon très concrète, essayer de discerner en nous ce qui est le contraire de la paix, c'est-à-dire la violence. Et arriver à éradiquer ou à convertir ces sentiments qui pourrissent le cœur et l'âme. Et puis il y a des actions. Hein,
mais... Alors les actions peut-être à l'étranger, si vous pouvez nous citer deux actions phares en fait à l'étranger, oui, alors, de Pax Christi.
D'abord il y a tout le travail de consultant. Alors celui-là il ne se publie pas facilement. Hein. Quand Pax Christi, comme ONG, est consultant à l'UNESCO, à l'ONU, à la Commission des droits de l'homme à Genève ou au Conseil de l'Europe, ça signifie des participations à des réunions de travail. C'est un travail, et au bout de ce travail, il y a des actions. Et le travail de fourmi que peuvent faire les gens qui participent à ces réflexions, à ces échanges, ne se publie pas facilement comme tel. Et c'est un peu noyé dans la masse. C'est la synergie commune qui aboutit à des résultats. Mais si on veut rester à l'international, je note tout à fait récemment tous les déplacements qu'a pu faire Mgr Stenger en Orient. Et en Irak en particulier, et ça n'a pas été facile. Mais là-bas, ils ont été très heureux de ce type de visite. Le réconfort, on pourra en parler pour l'équipe de Toulouse par rapport à l'Afrique du Sud, le réconfort que les personnes qui sont sur place trouvent à ces visites fraternelles est considérable, même si les résultats sont parfois douloureux, parce qu'il y a des vengeances devant ces visites. Et il y a eu mort d'homme à cette occasion. C'est particulièrement triste. Alors que faire? Rester chez nous, pas bouger, envoyer simplement des messages de réconfort ou aller sur place, comme l'a fait Mgr Stenger?
Alors vous avez commencé à citer un autre exemple en Afrique du Sud. Est-ce que vous pouvez nous le dire peut-être plus en détail?
Voilà, c'est beaucoup plus local. C'est notre équipe de Toulouse qui régulièrement a eu le souci d'entrer en contact avec des organismes qui, sur place, dans les territoires en conflit, font se rencontrer des personnes d'un bord et de l'autre, ce n'est pas toujours connu, mais ça existe, et simplement leur faire un signe que nous les connaissons, que nous les soutenons, et que leur exemple est très fort pour nous.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens de Pax Christi Toulouse ou de Pax Christi sur place ont fait en sorte que des ennemis jurés se rencontrent?
Ah, ils se rencontrent.
C'était quoi ces ennemis jurés?
Je prends l'exemple en Afrique du Sud d'un pasteur évangélique qui faisait se rencontrer des Zoulous et des Blancs. On savait que cela existait, qu'il avait pas mal de difficultés et d'ennuis, on s'en doute, à l'époque, et on avait écrit en disant « Nous savons que vous existez, votre témoignage nous réconforte et nous soutienne, sachez que nous sommes auprès de vous ». Et on a eu en retour une lettre particulièrement émouvante disant « Ce que vous nous dites est très important pour nous ». Et pourtant, on n'a rien fait. Hein. La même chose, nous l'avons également pratiquée vis-à-vis d'Israël et de la Palestine. Même objectif, même type de réaction. Voilà, ça ce sont des actions qui peut-être sont difficiles à publier sur la une des grands journaux, mais qui existent.
Alors, à ce sujet, pardon, Père Michel Dagrache, oui, je vous coupe, hein, il y a eu une rencontre, il faut le citer, donc en mai 2015, du 13 au 17 mai, il y a eu une grande rencontre internationale de Pax Christi qui a eu lieu à Bethléem et qui a donné lieu à une déclaration, si je ne me trompe pas, une déclaration de Bethléem qui est une manière de relancer justement ce processus. Et Pax Christi, c'était important pour Pax Christi d'être justement en Palestine pour signifier ce désir de paix. Sœur Hélène Rendu, l'autre a priori qu'on peut avoir parfois sur Pax Christi ou sur ces mouvements, c'est de se dire c'est des doux rêveurs, ils me demandent la paix, ils aspirent à la paix, mais bon, pour bien préparer la paix, parfois il faut savoir se battre. Est-ce que vous êtes des doux rêveurs? Est-ce que Pax Christi est un mouvement pacifiste?
Oui, et en fait, Pax Christi, on a une démarche, un processus qui commence par la prière, comme l'a dit Michel. Prière, réflexion et action. Donc on commence par la prière, on prie ensemble pour la paix, on prie avec des gens qui viennent de pays en conflit, on fait des veillées de prière avec des Syriens, avec des Centrafricains, ils témoignent, ils prient avec nous. On réfléchit, on se forme, on prend en compte aussi différents avis de ces gens dont la famille est dans les pays en conflit, et puis on essaye d'agir. Alors déjà, une des actions importantes, c'est la communication. Il y a beaucoup de communiqués de Pax Christi pour changer le regard des gens et en montrant qu'on n'est pas forcément obligé d'intervenir militairement là. Il faut pousser le dialogue, il faut pousser la négociation. Alors, on essaie de montrer une autre approche dans la gestion des conflits.
C'est-à-dire qu'en fait, vous montrez que la paix est un travail et, oui, qu'on peut, comment dire, on peut travailler à la paix et parfois il y a une autre solution que les conflits armés.
Voilà.
C'est un travail difficile, j'imagine. Enfin,
c'est un travail très ardu, c'est pas bateau, noir ou blanc, c'est voilà. Mais en tout cas, on pousse toujours la négociation et le dialogue. Il faut pas baisser les bras, quoi. C'est ça qu'on dit.
Alors, parmi vos actions, donc, vous citez les 5 D. Alors, c'est quoi les 5 D? C'est-à-dire, c'est les 5 grands champs d'action, peut-être, oui, de la mise en œuvre de ce travail de paix. Oui. Est-ce que vous pouvez nous les détailler, Sœur Hélène Rendu?
Oui. Alors, il y a le dialogue interreligieux et l'éducation à la paix. Premier dialogue, voilà. Le deuxième D, c'est le désarmement. Le troisième D, c'est développement et solidarité internationale. Ensuite, défense de la création et droits de l'homme. Donc sur chacun de ces axes, il y a des personnes qui sont engagées sur l'un ou l'autre axe, selon leur spécificité, selon leur formation, etc. Et on travaille toujours avec d'autres associations. Dans chacun de ces axes, c'est pas Pax Christi seul, c'est toujours avec d'autres associations spécialisées dans ces domaines.
Alors, c'est pour ça qu'on a invité Coexister, voilà, et on va lui donner la parole, hein, qui ne s'impatiente pas trop. Peut-être avant que vous nous expliquiez à Toulouse ou en Midi-Pyrénées ce que vous faites pour ce travail à ces 5D, parce que parfois on se dit, bon, droit de l'homme, pourquoi pas, mais désarmement, bon, en Midi-Pyrénées, on a du mal un peu à comprendre. Père Michel Daga, je vous repose la question. Si vous avez des exemples ailleurs qu'en France, ces 5D aujourd'hui, qu'est-ce que c'est, hormis peut-être des avis ou des rapports ou ce qu'on peut imaginer être des vœux sincère et pieux?
Ailleurs qu'en France, je ne peux pas vous dire comme ça tout de suite. Il faudrait se renseigner, aller glaner l'information. Mais il y en a. Simplement, moi, je voudrais indiquer que les droits de l'homme, il faut commencer par ça, montrent que ce souci nous place sur une plateforme qui est internationale, qui n'est pas simplement interreligieuse. Hein, parce que les droits de l'homme, nous ne sommes pas les seuls à nous en occuper. Donc on se retrouve à faire famille avec tout un tas de personnes qui militent pour que l'homme soit sauvé de la violence et de sa propre violence. Et le développement suit. Développement, ça veut dire développer sa conscience. Bien sûr, développement économique, tout ça, avec tous les bémols qu'on peut mettre à la musique du progrès. Hein, mais un développement vraiment des consciences qui soient intégrales, qui prennent tout l'homme et solidaires. Hein. Et on pourrait continuer ainsi la liste. Et le dialogue international, c'est pas simplement interreligieux, c'est beaucoup plus. C'est pour ça que nous sommes consultants à l'ONU, à l'UNESCO, hein. Et c'est pour ça que nous avons coexisté ici, coexisté et dialogue avec les autres, ça fait famille. C'est tout à fait ensemble.
Alors on va lui donner la parole à coexister. Je cite Monseigneur Stinger, qui donc est on le disait en introduction de cette émission, on a entendu son interview, qui est donc président de Pax Christi France récemment, faisait cette déclaration, donc c'était en août 2015, réagissant en fait aux événements autour de Calais, dénonçant les violences à Calais. Il dénonçait donc au nom de Pax Christi un manque de cohérence dans les politiques d'accueil et de législation du travail en Europe. Voilà, donc ça c'est un exemple d'action. Sœur Hélène Rendu-Vous en Midi-Pyrénées, est-ce que vous pouvez nous donner deux, trois exemples d'actions récentes, autres peut-être que le désarmement?
Oui, par rapport aux questions d'environnement, on suit l'actualité, hein, les questions d'environnement, les questions des migrants, il y a des actions qui sont faites. Au niveau de l'environnement, on est engagé avec plein d'autres ONG sur la COP21, donc des groupes de Toulouse vont monter à Paris pour la COP21. Il y a pas mal de colloques, de formations, de temps forts qu'on ne fait pas tout seul, Pax Christi, mais avec d'autres, et on pousse dans ce sens. Au niveau des migrants, il y a des jeunes de Toulouse qui sont montés à Calais. Voilà, passer un week-end, être bénévole dans les camps de réfugiés à Calais, voilà, pour rencontrer les réfugiés et voir la réalité de ce qu'ils vivent.
Alors, Pax Christi, coexister. Alors, coexister, peut-être on pourra présenter brièvement, c'est pareil, je vous fais réagir. Vous, ça trouve un écho, ces mobilisations, et vous avez accepté du coup de grand cœur de participer au pèlerinage des 70 ans de Pax Christi.
Exactement, parce que... Pour construire la paix, il faut le faire ensemble, et Pax Christi, à nos yeux, est une association qui permet ce mouvement ensemble de paix.
Est-ce que c'est rassurant d'avoir eu des aînés ou d'avoir des aînés dans ce mouvement? Est-ce que vous, dans votre combat de coexister, le combat en l'occurrence c'est le dialogue interreligieux, ça vous fait du bien de vous dire que vous êtes, enfin, vous en avez eu avant qui se battaient et qui continuent à se battre pour ça?
Alors ça va encore plus loin, nous, que le dialogue interreligieux, mais j'en reparlerai peut-être tout à l'heure. Effectivement, nous, on est renforcés dans notre conviction, parce que oui, on est le mouvement interreligieux et interconvictionnel des jeunes, mais sans nos aînés pour nous montrer que la paix est possible après des grands conflits comme la Seconde Guerre mondiale, on n'aurait peut-être pas le même espoir. Donc effectivement, voir des gens qui ont pu, après beaucoup de souffrances, aller à la rencontre de leurs ennemis et de leurs bourreaux, entre guillemets, ça nous redonne de l'espoir, comme quoi aujourd'hui, certains l'ont fait, nous aussi on peut le faire, même si les réalités sont différentes.
Et on en voit les résultats, hein, puisque donc c'est ce qu'on disait en introduction, hein, on fête aussi les 70 ans de l'ONU. On fait une pause et après vous allez nous expliquer en quoi consiste ce pèlerinage, et cette fois je vous donnerai la parole amplement pour nous présenter Coexister.
Oh,
Radio Présence dans le Grand Toulouse, 97.9. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Ce matin, donc, nous parlons de Pax Christi avec ce titre 70 ans à être apôtre de la paix. Si vous nous rejoignez et que maintenant, je vous rappelle que nous sommes avec sœur Hélène Rendu, qui est sœur franciscaine, responsable de Pax Christi jeune à Toulouse, le père Michel Daga, qui est prêtre du diocèse de Toulouse et théologien, et Jean-Baptiste Cornet, qui est responsable du groupe Coexister à Toulouse et qui, on le précise, travaille aussi à l'Arche à Blagnac. Alors, avant de parler donc de ce pèlerinage, comme promis avant la pause, Michel Daga, vous vouliez réagir à un propos que j'ai eu tout à l'heure en disant pour bien préparer la paix, il faut savoir aussi préparer la guerre. Donc ça, Pax Christi, semble-t-il, vous êtes fermement opposé à cette manière de voir les choses, ou en tout cas, vous vouliez réagir à ce propos peut-être
oui, tout
pas
à
ajusté
fait.
Ou pas ou maladroit.
D'abord, je précise que je fais partie du mouvement de Pax Christi. Et c'est un peu à ce titre aussi que j'interviens. Nous préférons changer le... comment on appelle ça, comment le slogan, si tu veux la paix, prépare à la guerre, ça se dit même en latin, hein, si même pachem, je ne sais plus quoi.
Bon. Parabellum.
Parabellum. Eh bien, nous, on préfère de dire, si tu veux la paix, prépare la paix. Et on souhaiterait qu'il y ait des écoles de paix comme il y a des écoles de guerre. Voilà. Et quand on voit le travail international de Pax Christi, que ce soit lors de la guerre de l'Irlande du Nord, l'Angola, le Timor oriental ou maintenant le Moyen-Orient, on voit des personnes qui cherchent à faire passer l'esprit de la paix au-delà de l'utilisation des armes. Il y a des fois où on ne peut pas faire autrement en cas de légitime défense que de se servir des armes, c'est très malheureux, mais même dans ce cas-là, celui qui est en face est un être humain, il ne faut jamais l'oublier.
Et c'est ce, voilà. ce que vous dites, c'est aussi donc ce que pensait la fondatrice, enfin l'initiatrice Marthe Dortel-Clodo.
Tout à fait.
Mais de fait, vous disiez qu'elle aussi considérait qu'évidemment, il fallait aussi se battre contre les Allemands.
La croisade de prière, serait intéressant de décoder aussi c'est l'expression qu'elle a lancée à ce moment-là, n'était pas une invitation à baisser les armes devant le nazisme. Loin de là, et la guerre est arrivée jusqu'au bout, bon, avec ses malheurs et tout ce que on sait à ce propos, mais c'est que le souffle de la paix soit plus fort que celui des armes.
Alors oui, voilà. Et puis je disais contre les Allemands, c'était contre les nazis. Alors, sœur Hélène Rendu, ce pèlerinage, 70 ans après, donc Pax Christi France a décidé de venir sur les pas des lieux de la fondation, donc avec un pèlerinage du 30 octobre au 3 novembre entre Agen et Toulouse. Est-ce que vous pouvez nous dire les grandes étapes, en quoi ça consiste et pourquoi a été voulu ce pèlerinage?
Oui, donc comme Pax Christi est né dans le sud-ouest avec Monseigneur Théas qui était à Montauban, l'enseignante là qui était d'Agen, Lourdes était un lieu important aussi au début de Pax Christi parce que l'enseignante a emmené des jeunes prier à Lourdes au début de Pax Christi. Et voilà, du coup on a décidé de faire un pèlerinage d'Agen, Montauban, Toulouse, Lourdes. Voilà, donc c'est un pèlerinage qui se fait en car, en fait. Donc, il y a des personnes de toute la France qui viennent, qui se retrouvent à Agen vendredi soir. On va commencer par... on va être accueillis par l'évêque. Et puis, il y aura le soir une veillée interreligieuse qu'on a préparée là, avec quelques jeunes de Pax Christi Toulouse. Samedi, donc on va avoir un historique de Pax Christi qui va nous être présenté. Et puis l'après-midi à Montauban, il y a une guide franco-allemande qui est spécialisée dans la Deuxième Guerre mondiale, qui va nous faire visiter Montauban de cette époque-là.
Et puis si on continue le programme, donc à Toulouse, vous faites rencontrer des associations, donc
voilà.
Entre autres Coexister, puis on va voilà. Leur donner la parole, et d'autres associations, par exemple un cœur pour la paix,
oui.
Alors c'est quoi un cœur pour la paix?
Un cœur pour la paix, ce sont des chirurgiens israéliens et palestiniens qui travaillent ensemble pour soigner les enfants palestiniens qui ne peuvent pas être soignés sinon, et donc c'est un grand message à travers leur activité. Et c'est c'est une Française qui a créé cette association et qui va nous parler de ce qu'ils font là-bas.
Et donc de Coexister. Alors oui. Coexister, Jean-Baptiste Cornet, est-ce que vous pouvez nous présenter cette association qui est la jeune pousse française en matière de dialogue interreligieux? Comment c'est né et qu'est-ce que vous faites?
Alors comment c'est né? C'est né en 2009. Il y a eu à l'époque plusieurs bombardements sur Gaza et beaucoup de manifestations en France pour... d'un côté dénoncer ces bombardements et d'un autre côté pour pas pour les soutenir mais pour expliquer pourquoi Israël avait agi comme ça. Et ces manifestations suite à ces manifestations, il y avait énormément de violence contre des mosquées, contre des synagogues, certaines bagarres entre manifestants. Et face à ça, donc Samuel Grybowski, qui est notre fondateur, n'a pas voulu rester spectateur, il a voulu agir pour la paix, et donc il a réuni plusieurs jeunes pour fonder justement une association à travailler pour la paix. Et ils ont proposé une première action, c'est plutôt que faire couler notre sang pour la guerre, faisons-le couler pour la paix. Donc ils ont fait une opération qui s'appelle Ensemble à 100%, et ils sont allés donner leur sang tous ensemble, donc juifs, chrétiens, musulmans, athées, agnostiques, pour la paix, et 150 poches de sang ont été récoltées ce jour-là.
Alors ensuite, donc c'est pas seulement une association de dialogue interreligieux, c'est une association en faveur de la paix, donc c'est ça la nuance. Et donc aujourd'hui, vos principales actions, quelles sont-elles en France?
Alors, on a trois piliers. Le premier, c'est le dialogue entre nous, dialogue interreligieux et interconvictionnel, parce qu'on inclut, on n'est pas juste entre personnes religieuses, on inclut aussi les non-croyants. Donc du dialogue entre nous pour apprendre à se connaître. Et par exemple, comme action, à Toulouse, on a proposé une soirée Ramadan, où donc tout le monde était invité à partager l'iftar, la rupture du jeûne, avec des musulmans, et une musulmane est venue expliquer le sens théologique du Ramadan et le sens coranique. Et voilà, et ce qui était beau ce soir-là, c'est qu'énormément de non-croyants étaient venus pour découvrir qu'est-ce qu'était le Ramadan et qu'est-ce que vivaient les musulmans durant cette période. Ensuite, on a un autre pilier qui est la solidarité. Voilà, on ne va pas juste au dialogue interreligieux, on va à l'action interreligieuse. Et donc, on va soutenir différentes associations, donc l'établissement français du sang, ou des actions de maraude, ou en ce moment avec les migrants, beaucoup de distribution de repas ou d'accueil, de famille. Et ensuite, la sensibilisation. Parce que ce qu'on vit entre nous, cette unité qu'on peut vivre au-delà de nos différences, si on la garde pour nous, ça serait égoïste. Donc il fallait en parler, il faut en témoigner.
Il faut venir aux émissions de Radio Présence, du coup.
Exactement. Et aussi dans les écoles, voilà, aller déconstruire les préjugés religieux qu'on peut avoir ou que la jeunesse aujourd'hui peut avoir.
Alors coexister, du coup, il y a des chrétiens, des musulmans, des juifs. Est-ce que vous pouvez nous décrire peut-être la diversité des personnes engagées au sein de coexister?
Alors des athées et des agnostiques.
Des athées et agnostiques, pardon. Ouais.
Qu'est-ce que vous entendez par diversité?
De fait, c'est pas commun d'avoir dans une association. Vous confirmez qu'il y a des gens de toutes ces confessions, toutes ces sensibilités intellectuelles ou spirituelles.
Effectivement, on est
à
tous
Toulouse,
ensemble.
C'est le cas aussi dans votre groupe?
À Toulouse, c'est le cas. On est une majorité de chrétiens aujourd'hui dans l'association, mais il y a quand même quelques juifs et quelques musulmans et quelques athées avec nous. Je crois que j'ai un bon exemple de comment on définit notre unité à coexister. Il y a quelques années, il y a eu un tour du monde interreligieux, donc une équipe de 5 personnes, Ilham, Ismaël, Jocelyn, Victor et Samuel.
Une équipe de coexister.
De coexister, donc un juif, un musulman, un agnostique, un athée et un chrétien, qui sont partis pendant un an faire le tour du monde à la recherche des projets interreligieux. Donc en Israël, ils ont rencontré la communauté musulmane de Chine, en ex-Yougoslavie où il y a eu beaucoup de massacres au nom de la religion. Enfin, je pense à Zebrinka par exemple. Et à un moment, le chrétien désirait prier le chapelet et avait perdu son chapelet. Et donc il a dit ouvertement, est-ce que quelqu'un a un chapelet? Et c'est Victor, qui est athée, qui lui a donné un chapelet que lui avait offert le pape François. Et ça définit bien ce que nous on vit, coexister, c'est pas juste tolérer l'autre religion, mais c'est aller au-delà, c'est se battre pour que l'autre puisse pratiquer sa religion.
Alors Père Michel Dagra, quand vous entendez ça, vous dites... Aïe, la relève est là maintenant, vous pouvez partir à la retraite.
Ce que j'entends là, c'est du passe Christi, ou coexister, ou c'est les. Enfin, nous sommes vraiment frères quand nous entendons des choses de la sorte. Et comment dire, c'est les 5D dont parlait Hélène tout à l'heure sont tout à fait là pour concrétiser, enraciner ce travail, cet artisanat pour la paix. Sinon, ça reste théorique, on peut toujours se bercer de grands discours. Et je crois que l'exemple qui a été donné de ces cinq jeunes qui ont fait le tour du monde est tout à fait emblématique de ce que l'on souhaite faire. Quand ici à Toulouse nous avons fait, dans le sillage de la rencontre d'Assise de 1986, une rencontre interreligieuse, nous étions à Saint-Pierre, 300 personnes entassées comme des sardines, et quelqu'un parlait en tibétain que personne ne comprenait, sauf un Tibétain qui ne connaissait que l'anglais comme langue européenne, traduit en anglais, de l'anglais ça passait au français avec un autre, et nous avions là une espèce de Pentecôte de la paix. Voilà. Et ce sont des signes comme cela qui sont très symboliques, qui appellent chacun à continuer à œuvrer là où il se trouve, et surtout ne jamais baisser les bras, hein. Nous sommes des artisans de paix, et l'artisan, il fait parfois un travail discret, humble, qui se ne publie pas tout de suite au grand jour.
Emmanuel Pella.
Ce matin, donc, nous parlons du mouvement Pax Christi, un mouvement catholique international qui est présent dans plus de 50 pays, qui est une ONG consultative maintenant auprès de l'ONU, de l'Union européenne et de l'UNESCO, entre autres, et qui donc organise un pèlerinage sur les traces des fondateurs pour ses 70 ans, un pèlerinage entre Agen et lourde, comme on en a parlé déjà longuement dans cette émission, du vendredi 30 octobre au mardi 3 novembre. Peut-être, dans cette dernière partie, je voulais vous demander un peu de nous parler davantage de la dimension spirituelle de Pax Christi, c'est-à-dire au-delà de la mobilisation des actions. C'est un mouvement catholique, la prière, on imagine, est en son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire que de mettre en son cœur cette prière, Père Michel Dagrin?
Ça veut dire consentir à ne pas être seul dans les événements de la vie. La prière, c'est une conversation avec quelqu'un. Et cette présence que le chrétien croit installée, posée, venue au plus profond de nous-mêmes, suscite aussitôt la prière. Elle peut être demande de reconnaissance, de compagnonnage, tout simplement. Donc nous ne sommes pas dupes. On sait très bien que la paix, elle est au-delà de nos forces. C'est quelque chose de fou même. On nous prend pour des doux rêveurs de militer parfois pour la paix. Mais nous croyons que cette œuvre du Christ qui ne se réalisera jamais sans l'homme est possible. Et tout un tas de témoignages dont nous avons entendu parler au cours de cette émission et auxquels on a fait référence nous le montrent. Nous sommes vraiment sur un chemin accompagné par quelqu'un. Et ce quelqu'un, ce compagnon de route, sur le chemin d'Emmaüs, nous lui parlons, nous conversons avec lui, nous l'impliquons parce qu'il s'implique lui-même, le premier en pleine humanité, dans notre travail de paix. Voilà l'importance de la prière. Ce n'est pas un succès d'année ou un supplément d'âme, c'est vraiment le cœur de ce que nous sommes et de ce que nous avons à vivre.
D'ailleurs, le pape François, donc, dans son message à l'adresse de Pax Christi pour cet anniversaire, à ses propos, parlant donc de cette réunion, probablement de la réunion qu'il y a eu en mai 2015 à Bethléem, qu'on a cité plus avant dans cette émission, que cette assemblée soit une occasion, dit le Saint-Père, pour tous les membres de Pax Christi d'ouvrir de nouveau leur cœur au Christ et de voir leur union en lui comme leur plus grande offrande pour les communautés qu'ils servent. Sœur Hélène Rendu, est-ce que à Pax Christi Midi-Pyrénées, Toulouse, c'est pareil, la prière, c'est la pierre d'angle, c'est essentiel ou est-ce que c'est secondaire à Pax Christi?
Non, c'est vrai, nos réunions commencent ou finissent par une prière, c'est central. Ensuite, c'est plus Pax Christi National qui organise, mais il y a des retraites spirituelles organisées par Pax Christi. Il y a un groupe qui s'appelle Bible Épée, qui repère dans la Bible quels sont qu'est-ce qui peut nous accompagner dans ce chemin.
Vous parlez des retraites spirituelles, c'est aussi des retraites pour trouver la paix intérieure.
Tout à fait.
Donc cette paix, c'est peut-être assez bateau de dire ça, mais il ne suffit pas de vouloir la paix pour les autres, encore faut-il la faire en soi.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ces retraites? Peut-être en deux mots. Ces retraites pour proposer la paix intérieure, ou les retraites que vous proposez, peut-être la dernière que vous avez proposée à Toulouse, en Midi-Pyrénées, c'est-à-dire...
Il y en a jamais eu sur Toulouse, c'est plus.
Alors il est temps.
National. Oui, voilà, c'est une occasion, on va le faire. Mais c'est vrai, c'est des retraites, qui invitent à faire un chemin spirituel ou vers la paix, vers l'amour de ses ennemis, à travailler sur soi, sur nos relations interpersonnelles et avancer sur ce chemin de pardon. C'est un chemin de pardon et de réconciliation. Et on centre les retraites là-dessus pour pouvoir après le développer dans le mouvement et dans toutes nos actions.
Alors Jean-Baptiste Brunet, après, je veux bien que vous nous disiez un mot sur cette dimension de la prière qui est peut-être aussi présente à coexister, je ne sais pas. Michel Dagra voulait dire, en fait, la prière, je vais y arriver, est importante parce que l'amour des ennemis, comme on disait au début, c'est tout sauf une évidence, en fait. Il faut une force divine pour arriver.
C'est un commandement de l'Évangile, mais j'ajoute à ce que disait Hélène, la proposition spirituelle en quelque sorte continue de la part de Pax Christi. Nous arrivons dans la période liturgique de l'Avent, et bien il y a une proposition du mouvement pour accompagner la spiritualité de l'Avent pour chacun, avec des méditations des évangiles des différents jours de l'Avent. Quant à l'amour des ennemis, ce n'est pas une espèce de succès d'année morale que l'on pourrait ajouter ou qu'on pourrait qualifier de chrétien. C'est au cœur même de notre foi. Nous croyons que l'homme est créé à l'image de Dieu, quel qu'il soit. Quand nous disons notre Père, ce n'est pas limitatif à un certain nombre de personnes, mais c'est un regard que nous portons sur le monde entier. Donc tout être humain est image de Dieu, si on s'en tient à l'Ancien Testament, si bien que lorsqu'il est dans la violence, il y a profanation de cette image, c'est un sacrilège. ils n'ont pas perdu mot, et qui plus est, non seulement image, mais fils de Dieu dans cette révélation du Christ, donc nous sommes tous frères. L'ennemi est un frère. Nous n'avons pas à faire des ennemis des amis, sinon nous n'aurions plus d'ennemis à aimer. Hein, c'est aussi bête que ça. Ce n'est pas parce qu'on se dispute avec son frère qu'on n'est pas frère. Donc, ce regard à porter sur l'autre, au nom de la foi en Jésus-Christ, de la foi humaine déjà, ce serait pas mal, mais encore plus au nom de la foi en Jésus-Christ, à porter sur l'autre, quel qu'il soit, quelle que soit sa situation sociale, sa culture, ses opinions politiques, religieuses, les armes qu'il porte à la main ou les haillons qui le vêtent, c'est un être humain, c'est un frère. Voilà. Et aimer, ça veut dire tout faire pour que la conscience de, d'abord le partage du sang dont on parlait tout à l'heure, c'est évident qu'ils vivent d'abord, et c'est très beau, ça c'est le béaba de l'amour, c'est le premier pas de l'escalier, et puis après vouloir que des relations positives, fécondes s'établissent dans le dialogue, dans l'échange, le partage des richesses mutuelles qui font nos différences, ça c'est humaniser, ça c'est aimer. Et on pourrait continuer ainsi, avec en soulignant la dignité de chacun, l'infinie dignité irréductible de chaque être humain. C'est cela, aimer. Ce n'est pas un fervorino en faisant du violon et en chantant une musique douce. C'est un combat, c'est une lutte. L'artisan de paix est un combattant.
Eh bien, merci à nos invités. J'aurais pas eu le temps de vous redonner la parole, Jean-Baptiste Cornet. En tout cas, si on veut vous rencontrer, coexister, eh bien, il faut venir participer à ce pèlerinage ou en tout cas à cette rencontre qui est proposée à Toulouse dimanche 1er novembre. Merci beaucoup hein, aux uns et aux autres. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet radioprésence.com. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain où nous parlerons de Saint François d'Assise.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.